Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Candice Chasserie, bonjour.
Bonjour.
Et de Rémi Mété, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici au nom de la Ligue protectrice des oiseaux. Et donc, vous êtes aussi là pour nous annoncer, pour le dimanche 22 septembre, au col de la bataille, la fête du vent. Cette fête est organisée contre un projet de création de parc éolien sur le territoire de la bataille.
C'est ça. Donc justement, en fait, c'est par rapport à un projet qui a été annoncé en 2017, donc sur la création d'un parc éolien au col. Et vu que c'est un site vraiment magnifique avec une faune très importante, un site de migration, que ce soit des oiseaux ou des chauves-souris. Et donc, il a été mis en place un projet de placement d'éoliennes. Et nous, on lutte contre ce projet. On n'est pas, enfin, la LPO n'est pas contre les énergies renouvelables, mais on protège quand même des sites naturels et ce site est vraiment important. Donc c'est pour ça qu'on a, fait. Enfin, déjà l'année dernière, il y a eu une première fête du vent qui a été faite. Et donc là, on renouvelle l'expérience et c'est vraiment pour sensibiliser le public et leur montrer, voilà, enfin, leur parler du site et aussi de notre mobilisation donc contre ce projet là.
Et voilà. On peut parler aussi de l'édition 2018 de cette fête, quel en a été le bilan et si ça vous a permis d'ouvrir encore plus le soutien.
L'édition 2018, ça a été une grande réussite parce qu'il y a eu près de entre 350 et 400 personnes qui sont venues sur ce week-end-là. Un week-end très convivial avec toutes les animations qu'il y avait à disposition des gens. Des gens qui étaient intéressés vraiment par ce qui était fait là-haut et qui se sentaient concernés par ce sujet-là. Voilà, donc un week-end très enrichissant pour tout le monde.
Cette fête du vent n'est là que pour cette problématique de l'éolienne.
Oui, elle a été vraiment spécialement pour ça. Donc parce que quand le projet a été mené, il y a un collectif qui s'est monté, donc dont la LPO fait partie, mais aussi d'autres associations de type Sauvons Léoncelle, Lysandra, Vercors Nature et Mille Traces. Il y a aussi des hébergeurs qui ont des gîtes sur place ou des restaurateurs qui font partie de ce collectif. Et donc oui, il a été vraiment, la fête du vent a été vraiment créée par rapport à ce projet. Et voilà.
Oui, c'est donc le collectif de la sauvegarde du col de la bataille.
C'est ça. Oui.
Ce col de la bataille, son nom est dû à quoi? Vous en savez quelque chose?
Là, c'est une bonne question. J'ai jamais recherché vraiment où est-ce que ça pouvait être. Après, col de la bataille, on peut imaginer, vu que les conditions météorologiques sont souvent très rudes, on peut imaginer que c'est la bataille vient de là, entre le soleil, le vent, la pluie, le brouillard qui peut arriver n'importe quand, à quel moment de la journée sur ce col. Peut-être que ça vient de là, mais je n'ai pas le sens vrai du mot.
On revient sur ce projet donc d'éoliennes sur le col de la bataille. Il y a certainement eu une réaction de la population aussi autour. C'est l'un de vos supports aussi, la population.
Alors à ce sujet-là, on a eu une grande aide des habitants de Léoncelle qui ne sont pas tous pour ce projet éolien. Il y a de tout. Et notamment via l'association Sauvons Léoncelle qui est très active dans ce collectif et qui est très active là-haut parce qu'ils sont les premiers concernés par ce projet. Et donc on essaye de mettre les habitants au cœur de ce projet-là et qu'ils se sentent le plus concernés par cette fête parce que c'est un peu c'est ce qui est proche de chez eux en premier.
Et il y a aussi du coup une pétition qui avait été menée l'année dernière et il y a plus de 5000 personnes qui l'ont signée. Donc, ce qui montre que vraiment les gens sont mobilisés par rapport à ce projet, quoi.
Et puis vous, pour l'engagement de la LPO sur, sur cette fête du vent, c'est est relatif à aussi votre fonction, c'est-à-dire de protéger les oiseaux et les animaux, en quelque sorte. Et donc, quelle est pour vous, justement, cette contradiction avec l'éolienne et la LPO ?
Ben alors là, le sujet est très vaste, parce que alors, notre association n'est pas contre l'éolien dans tout son genre. Elle est vraiment contre ce projet ici, parce qu'on a des enjeux faunistiques qui sont relativement forts, voire très forts. On a des enjeux chauve-souris, avec on a 24 espèces présentes sur le site, sur la trentaine présente en Rhône-Alpes. Au niveau de la migration des oiseaux, on est des années où on compte plus de 200 000 hirondelles qui traversent ce col à l'automne. Et puis après, on a des enjeux sur la vie faune locale, qui vont être les aigles, les grands-ducs, les craves, qui sont des espèces protégées et qui sont menacées sur notre territoire. Et aujourd'hui, c'est un projet comme ça, un projet industriel, parce qu'on parle vraiment d'un projet industriel, peut avoir un impact non négligeable sur toute cette faune, de par les collisions, de la perte d'habitat, et aussi chez les chauves-souris, ce qu'on appelle du barotraumatisme. Donc c'est souvent... une pression qui fait que les poumons ou le cerveau explosent en plein vol et une mort instantanée de l'animal.
Puis ça a aussi des retombées économiques, parce qu'au final, c'est vraiment un site où il y a beaucoup de randonneurs. Et le fait de mettre un parc éolien là, ça va moins attirer les gens de venir pour se ressourcer sur le col. Et donc, ça va avoir des retombées sur tout ce qui est gîtes ou les restaurateurs et tout ça. Donc, c'est aussi ce problème-là, quoi.
Vous-même, vous vous êtes renseigné sur l'intérêt de cette construction d'éoliennes ? Est-ce que ça va vraiment dans le sens de l'intérêt général ?
Alors, c'est dans le cadre de la transition énergétique qui est notre État nous donne de faire. On a aussi, il y a certainement d'autres lieux pour installer des éoliennes comme cela, parce que là, Il faut voir qu'on est quand même à 1300 mètres d'altitude. Il va falloir amener des câbles pour alimenter ces éoliennes. Et c'est vrai que sur un site comme ça, on essaye de comprendre l'intérêt. Il y a un intérêt du vent, c'est certes, parce qu'il y a énormément de vent là-haut. Mais après, est-ce que c'est vraiment utile pour notre société là, actuelle, de le mettre en plein cœur d'un parc naturel régional ? C'est la question dont on se pose vraiment.
Et parmi le collectif, je suppose que il y a, vous disiez donc 5 associations au sein de ce collectif, et il y en a certains qui ont peut-être travaillé sur une alternative ou une proposition d'alternative de territoire ou de terrain pour les installations de ces éoliennes ou pas ?
Là, au sein du collectif, pas vraiment. Après, nous, là, ce qu'on préconise, c'est vraiment sur le parc naturel régional du Vercors, c'est que les éoliennes suivant les endroits, il y a des enjeux faunistiques, paysagers, économiques qui sont relativement forts. Et on ne voit pas trop à quoi pourrait servir l'éolienne dans ce milieu-là. Après, des alternatives, il y en a sûrement, où il faudrait installer peut-être des éoliennes plutôt dans d'autres secteurs où les enjeux sont moins forts. Après, il y a d'autres types d'éoliennes où il faut réfléchir dessus. Il y a vraiment toute une réflexion à faire autour de l'éolien qui aujourd'hui n'est pas vraiment concrète. On dit de poser de l'éolienne pour faire l'électricité, et c'est un point, c'est tout. Peu importe les enjeux du territoire.
On va aborder aussi la journée. Ça se passera à partir de 9h.
C'est ça.
Donc à 9h, il se passera quoi pour commencer ?
Tout d'abord, il y aura une navette qui sera mise en place au niveau du parking de l'Échaillon, donc pour éviter justement une saturation des voitures au col. Donc on a vraiment installé une navette où les gens pourront se déplacer donc directement via le col. Et ensuite, il y a des balades qui sont proposées. Donc, il y a au moins 2 randonnées de proposées. Une qui va se faire directement au col et une autre un peu avant pour monter jusqu'au col. Et ensuite, il va y avoir un accueil du public avec des boissons chaudes. Et voilà, à partir de 9h. Et ensuite, au niveau du déroulement de la journée, il va y avoir plein d'activités tout au long de la journée. De type des ateliers de nichoirs ou des observations aussi de la migration avec des petites balades. Pour les enfants, il y aura un stand dédié pour eux où il y aura des jeux qui seront mis en place. On va aussi faire un point presse. Donc là, ce sera plus par rapport donc, de discuter de ce projet donc avec des journalistes et autres. On a aussi invité des élus donc, pour qu'ils viennent débattre avec nous sur ce projet. Et à 15h, il y aura une chaîne humaine où l'année dernière, ils ont fait une hirondelle. Et cette année, on voulait faire une chauve-souris. Voilà. Et ensuite, vraiment à la toute fin, il y aura une capture de chauve-souris. Donc, à la tombée de la nuit, on pourra voir les bêtes de plus près.
Donc, les animations, ateliers et jeux sur la nature commencent à partir de 10h, hein, comme vous aviez dit. En détail, il y aura des fabrications de nichoirs, c'est ça?
Oui, et aussi de sifflets à peau, il y aura aussi des stands de musique.
Tout ça, ce sont des personnes qui proposent ces animations avec leur expérience.
C'est ça, et tout ça bénévolement, tout est fait...
Ces nichoirs, après, sont voués à être installés chez les particuliers?
Là, après, c'est les gens qui vont repartir avec leurs nichoirs qu'ils ont construits sur place et qu'ils vont pouvoir installer dans leur jardin. Toutes les animations proposées, elles sont toutes gratuites et ouvertes à tout le monde. Et après, chacun repart, oui ou non, avec son nichoir, son apo qu'il a fabriqué, comme il le sent.
Il y a aussi une exposition de photographie, je crois bien.
Oui.
De qui?
C'est des photos qui vont être exposées. Le photographe, c'est Gérard Grassi de l'association Lisandra. Et c'est des photos de la faune et la flore locale prises dans le secteur du col de la Bataille pour montrer toute l'importance et la beauté de la faune présente.
Il y a une petite activité qui m'avait surpris, c'était la vente de moulins à vent. Alors, qu'est-ce que c'est, ça?
Alors, en fait, on avait une idée l'année dernière qui était de mettre en place des cerfs-volants sur le site. Et on s'est dit que ça rentrait peut-être pas trop dans nos cordes. Donc, on est parti sur plutôt des petits moulins à vent tournants qui tournent avec le vent. Parce que toute la fête est quand même liée au vent. Et c'est joli, les enfants apprécient ça. Ça peut être posé sur un sac à dos, planté le temps de la fête du vent, et c'est un petit souvenir que chacun rapporte chez soi en souvenir de cette fête du vent.
La LPO, on peut en parler aussi, ce qu'il en est. Vous organisez souvent des sorties, des comptages, toutes ces animations, ou plutôt activités, je dirais, elles sont vouées à quel public s'il est intéressé?
Alors, toutes les animations qui sont proposées à la LPO, c'est ouvert au grand public, donc à toute personne, qui soit novice ou expert en la matière. Après, il va y avoir hors fête du vent, mais il y a des suivis, par exemple, sur des espèces très spécifiques qui sont proposées, des comptages chamois, bouquetins, au cours de l'année. Et après, on va avoir des choses plus simples sur des stands, sur des animations pour la découverte des oiseaux, pour la découverte des chauves-souris. C'est vraiment tout un panel d'animations qui est varié et pour faire venir le plus de monde possible au cours de l'année.
Mais c'est vrai que tout le monde, au final, est convié à n'importe quelle activité. Après, ça dépend aussi en fonction du terrain. Il y a des choses où les plus jeunes pourront moins le faire parce que c'est la nuit ou parce qu'ils font beaucoup marcher. Mais sinon, nous, justement, le but, c'est vraiment de proposer et de sensibiliser les gens. Donc, on essaie d'attirer vraiment un large public.
Je voulais revenir aussi sur une problématique que j'ai entendue récemment. C'était sur les soins aux oiseaux. Hein. Il me semble qu'il y a un centre de soins qui est en grande difficulté financière. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y avait un article.
Le centre de soins de l'Hirondelle.
Peut-être bien, voilà, c'est ça. On peut en parler un peu de...
Oui, ce n'est pas énormément notre domaine d'action. Hein, mais,
ça ne fait pas partie de la LPO.
C'est différent. En fait, la LPO, elle peut avoir dans ses cordes les centres de sauvegarde. En Drôme, on n'en a pas fait le choix. On n'a pas eu l'opportunité d'en créer un. Et il y a eu l'Hirondelle qui s'est créée. Parce qu'avant, il y avait des vétérinaires qui récupéraient les animaux, mais maintenant, il y a un vrai centre de soins qui récupère les animaux, qui en soigne, et ceux qui ne peuvent pas être soignés sur place sont envoyés ensuite sur Lyon, sur un autre centre de soins. Enfin, c'est le même centre de soins sur Lyon.
Voilà, c'était surtout par rapport aux hirondelles, je crois. Hein, il y a énormément de blessures. Alors, est-ce que ça n'a rien à voir avec les éoliennes? Quel type de blessures sont occasionnées sur les hirondelles?
Là, dernièrement, ce qu'on a beaucoup entendu parler, c'est les effets du réchauffement climatique un peu sur tous ces oiseaux-là, notamment avec la grosse canicule qu'on a eue cet été, les gros orages de grêle qu'on a aussi reçus. Ça a eu un fort impact sur les oiseaux. Donc souvent, la canicule, c'est des oiseaux qui sont dans les nids, qui ont beaucoup trop chaud, qui sautent. des oiseaux qui peuvent pas voler. Donc là, ils sont récupérés, emmenés en centre de soins, élevés jusqu'à l'envol et relâchés. Et puis après, on a des oiseaux, notamment avec la grêle, parce que nous, on reçoit un peu des oiseaux à la LPO qu'on transfère ensuite, ou avec des ailes fracturées, qui ont reçu des grêlons, des oiseaux même retrouvés morts sur place. Et tout ça, sont amenés au centre de soins. Et c'est les principales blessures qui ont été constatées dans l'été. Après, il y a les grands classiques avec des oiseaux abandonnés ou ramassés par des gens, attaqués par un chat, ou coincés quelque part.
Percutés par des voitures.
Percutés par une voiture.
Mais c'est vrai que du coup, cet été, ça a été compliqué pour tous les centres de soins, je pense, de France même. Donc justement, comme a dit Rémi, dû à la canicule, où il y avait beaucoup d'oiseaux qui ont été emmenés, et où c'est surtout des structures qui marchent grâce au bénévolat, et où au final, ils n'avaient pas assez d'argent et pas assez de temps pour s'occuper de tous ces animaux. Et c'est vraiment pour ça qu'il y a eu des appels à dons pour ces centres.
On n'a pas fini cette journée, parce qu'il y a ensuite, à partir de 18h toute la nuit, donc une découverte de la migration des chauves-souris. Ça, j'ignorais que les chauves-souris migraient.
Oui. T'en sais plus ?
En fait, elles migrent plus ou moins, pas toutes les espèces. On a certaines espèces, comme les noctules de Lesler, si je ne me trompe pas, qui sont des grandes migratrices. Et qu'on arrive à voir passer au col à la pénombre. Et c'est des espèces qui, des fois, au col, on peut en voir passer plusieurs dizaines juste avant qu'il fasse nuit. Et sur ce col-là, on a une concentration d'espèces de chauves-souris qui nous, avec des espèces migratrices et d'autres moins, qui nous laissent à dire qu'on est sur un site de passage qui est d'importance pour ces espèces-là.
Mais c'est sûr que les chauves-souris sont très, elles craignent beaucoup le froid, et donc c'est pour ça qu'elles migrent, donc elles vont plus au sud. Mais c'est vrai qu'au final, cette période de septembre, d'automne, c'est surtout la période où les chauves-souris vont se retrouver pour se reproduire avant de partir en site d'hivernage, donc justement pour hiberner et se protéger du froid. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment, à cette période de l'année, beaucoup d'envols de chauves-souris sur ces cols. Et donc, ils peuvent être très néfastes si un projet éolien est mis en place. Quoi.
Ces chauves-souris migrent en territoire africain ou dans le sud, en Espagne ou Italie ?
Le problème, c'est que les chauves-souris sont dures à étudier parce que c'est des espèces nocturnes qu'on a du mal à attraper. Et c'est vrai qu'on a peu de données sur ce genre d'informations. On ne sait pas combien de kilomètres elles peuvent faire parce qu'il faudrait les baguer. Enfin, c'est vraiment compliqué. Donc c'est vrai que c'est des questions qu'on a encore du mal à répondre. Et on essaye de plus en plus à essayer de les étudier pour vraiment savoir exactement où elles vont, ce qu'elles font et combien de kilomètres elles peuvent parcourir.
Candice, vous travaillez à l'LPO et par quel cheminement vous y êtes arrivée ?
Moi, j'ai fait un master d'écologie et que j'ai eu l'année dernière. Et c'est vrai que les chauves-souris, c'est mon domaine, on va dire, que j'ai envie d'approfondir. Et donc, j'ai décidé cette année de faire un service civique à l'LPO avec Thomas Dehana, donc, qui est lui chiroptérologue et qui travaille à l'LPO. Et donc voilà, et j'aimerais bien plus tard travailler dans la protection, que ce soit dans des associations ou autres, pour travailler sur les chauves-souris.
Vous êtes resté principalement en France ou alors vous avez vu d'autres pays pour étudier ces animaux ?
Non, pour le moment je suis restée en France, parce que voilà, je voulais vraiment me spécialiser sur les chauves-souris locales avant de pouvoir aller voir ailleurs ce qu'il y a.
Et alors, vous parliez d'une vingtaine d'espèces de chauves-souris. C'est le nombre qu'on a en France actuellement ou il y en a encore plus ?
Non, en France, on en a actuellement 34 espèces. Et il y en a 30 présentes dans la Drôme et 20 espèces qu'on a trouvées sur le col. Voilà.
Et de quoi se nourrissent-elles justement au niveau du col ou sur le Vercors ? Il y a quel type d'insectes pour elles ?
Se nourrissent de vraiment beaucoup d'insectes différents, que ce soit des moustiques, des papillons, des mouches. Il y a vraiment un panel d'insectes plus ou moins gros qu'elles peuvent manger. Et puis, il y en a même, en fonction de leur taille, qui peuvent même manger des petits oiseaux et autres.
Ouais, il y en a de taille assez conséquente. Ça fait quelle envergure, ça, une chauve-souris prédatrice comme ça?
C'est... C'est grand, mais c'est pas si grand pour nous.
Non, enfin, mais c'est 40 cm
ouais,
comme ça.
Les plus grandes, ça doit venir faire ça.
Ça fait, ça fait déjà un bel animal quand même.
C'est pas des roussettes, quoi.
Non.
Je vais reposer aussi la même question à Rémi. Hein. comment en es-tu arrivé à travailler à la Ligue protectrice des oiseaux ?
Et bah moi, j'ai fait mes études à la MFR de Mondy, maison familiale rurale, à Lixan, où j'ai fait un bac pro gestion des milieux naturels et de la faune sauvage. Je suis passé ensuite en BTS gestion protection de la nature. Après, j'ai fait un service civique à la LPO, comme fait Candice actuellement. Je suis parti ensuite encore en études en licence pro études et développement des espaces naturels à Montpellier. Et j'ai fini à la LPO Drôme en tant que chargé d'études plutôt sur les actions ornitho, donc sur les oiseaux. Voilà, et puis mon souhait, c'est aujourd'hui d'y rester et de continuer mon travail dans la protection des oiseaux et des autres espèces qui nous entourent.
Pour la LPO, prochainement, vous prévoyez d'autres événements aussi ou alors, par exemple, des sorties ou des séances de comptage, par exemple. Pour ça, vous pouvez communiquer par Internet, je crois.
Oui, oui, il y a notre agenda en ligne sur notre site Internet où on peut retrouver toutes les animations, comptages qui sont prévues dans les jours à venir, dans les mois qui arrivent.
Et il y a même une newsletter, on peut s'abonner à une newsletter qu'on envoie tous les jeudis, où vraiment, là, pareil, on va vraiment parler des différentes actions qu'on mène et aussi des différentes sorties qu'on fait.
Et pour ça, vous avez un monde suffisant ou alors parfois vous cherchez de nouveaux bénévoles pour agir avec vous ?
Ah ben, on est toujours à la recherche de bénévoles prêts à offrir de leur temps pour la biodiversité. Après, ça peut être du temps qu'ils mettent à disposition pour faire des comptages, pour aider des salariés dans des suivis. Mais ça peut être aussi des choses toutes simples comme tenir un stand pour un festival, pour un forum. Ça peut être venir nous aider à couper du bois pour faire préparer des nichoirs ou des gîtes. C'est vraiment... On a besoin de monde et toutes les personnes sont les bienvenues. On trouve toujours de quoi faire.
Et justement, pour la fête du vent, on avait fait un appel à bénévoles pour venir nous aider à accueillir les gens, pour la navette et aussi pour servir à manger, à boire. Donc c'est vrai qu'on est toujours demandeurs de bénévoles.
Voilà, et tout ça, ça se déroulera au-dessus de Léoncel, hein, pour les auditeurs. Il y avait une autre chose aussi, c'était par rapport à la chaîne humaine. La chaîne humaine, donc, vous aviez reconstitué une hirondelle, vous étiez une bonne centaine de personnes, non, je pense. Une chauve-souris, vous pensez que vous allez pouvoir la faire plus grande encore cette année ?
On espère que cette année, la fête du vent aura autant, voire plus de succès que l'année dernière. Et donc, il y aura assez de monde pour faire une très belle chauve-souris.
L'image est prise d'où ? Par
quoi ? C'est un drone et un bénévole qui a un drone et qui nous l'a prêté gentiment pour faire cette photo au moment de la chaîne humaine. C'était une belle occasion pour avoir le paysage, plus l'hirondelle devant. C'était super chouette.
Il y aura de l'animation musicale. Vous prévoyez donc des gens qui viennent partager ce qu'ils aiment.
C'est ça, ouais, c'est des musiciens qui viennent un peu de tous les secteurs, qui vont venir jouer de la musique. Il n'y a pas une scène prévue pour ça, mais c'est vraiment dans l'ambiance de cette fête, c'est vraiment quelque chose de très convivial où chacun peut ramener son instrument, peut jouer de la musique, à plus des personnes qui vont venir exprès pour ça. Mais voilà, c'est un peu opportuniste, chacun... comme il le sent.
De la musique qui pourra se faire jusque dans la nuit, en même temps que la migration des chauves-souris, ou alors vous vous donnez une fin pour l'animation ?
Alors, pour les chauves-souris, c'est toujours bien d'être au calme. Donc, c'est sûr que pour la musique, ça reste des petites bêtes. Donc, la musique ou le bruit, on évite quand il y a les chauves-souris, parce que ça les stresse. Et donc, on évite tout ça. Mais déjà, de 9h jusqu'à 18h, il y aura de quoi faire de la musique et de s'amuser tous ensemble.
Mais c'est vrai qu'on va, vers 18h, je pense que les stands seront démontés et il y aura moins d'activités à part la capture parce qu'il faut vraiment être vigilant. Enfin, on installe au bord de la route des grands filets pour capturer les chauves-souris. Et donc là, voilà, il faut que chacun soit vigilant et on doit être tous voilà, assez attentifs. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, à partir de là, on arrête les différents stands et les animations.
La capture que vous opérez permet quoi ?
Ben, elle permet justement de voir exactement les espèces qui passent sur le col. Et donc par la suite de pouvoir montrer et dire aux gens que ben voilà, y a beaucoup d'espèces différentes, beaucoup d'individus qui passent par là. Et donc toujours dans le même but de montrer que ben, les éoliennes ne sont pas une bonne idée à être placées à cet endroit.
C'est juste un comptage et une détermination des espèces.
Ouais, c'est ça. Quand on capture les chauves-souris, ils prennent des mesures. Ils prennent le poids à la mesure de l'avant-bras. Ils regardent des fois la dentition, si la femelle est allaitante, si c'est un mâle. Mais il n'y a jamais de diagnostic qui sont faits sur les individus. Un individu en bonne santé, en mauvaise santé, généralement, des professionnels arrivent vite à le voir quand ils l'ont en main. À voir si l'espèce, enfin si l'individu est bien ou pas bien.
Je rappelle aux auditeurs quand même, pour vous joindre et vous contacter, donc il faut passer par le site internet sauvonsleonscelles.com/association. Pour la LPO, donc le site est lpo-du6drôme.fr. Il y a peut-être des conseils pratiques à donner aux personnes qui voudraient venir à cette fête du vent ?
Oui, on peut. Si elle est pour les personnes qui veulent monter, on est au col de la Bataille, on est en montagne, donc il peut faire froid comme très chaud. Donc il faut apporter des affaires chaudes au cas où il fasse froid et de quoi se mettre à l'abri du soleil s'il fait chaud. Et puis chacun peut aussi apporter un pique-nique parce qu'il y aura un grand pique-nique. Le midi sur le site avec tout le monde.
Voilà.
Je vous remercie Candice Chasserie et Rémi Mété d'être venus nous parler de cette fête du vent avec la participation de la LPO dont vous faites partie. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci bien.
Au revoir.
Au revoir.